Le regard des autres est un miroir déformant. Pour qu'une situation soit considérée comme un échec, il faut parfois s'y mettre à plusieurs. L'entourage et la société nous aident beaucoup en ce sens et nous sommes perméables au regard des autres. Je vais vous raconter un autre de mes échecs. La fin est surprenante. Nous sommes le 10 janvier 2006. J'habite à Marcilly, dans l'ancienne maison que ma sœur occupait. Je travaille depuis quelques mois à créer une société atypique qui n'existe que peu en France à cette époque et pas du tout dans mon secteur. Une entreprise d'anniversaire à domicile pour les enfants. Le concept est simple. Un animateur vient durant 3 heures au domicile du particulier et s'occupe tout l'après-midi des enfants. Au programme, maquillage, petit spectacle de magie, jeux, petit spectacle de marionnettes et gestion du goûter d'anniversaire. Je suis la force vive de ce concept, à la fois le créateur, le directeur, le chargé de communication, l'animateur, le comptable, l'artiste, etc. Le 10 janvier est le jour du lancement officiel. Je suis assez excité car je crois beaucoup en ce projet et je pense qu'il va m'épanouir tout en restant pas trop loin de chez moi. Je regarde les plaquettes de ma société Annie Birthday, que j'ai réalisée moi-même. Je vérifie que le site internet que j'ai codé fonctionne. Je suis prêt. Le problème pour trouver une clientèle est de faire connaître cette activité nouvelle et ma société. C'est un double défi qui ne me fait pas peur. Une étude de marché, entendez par là questionner des gens sur les parkings devant des magasins de jouets, m'a permis d'établir une grille tarifaire. Les prix sont un peu bas, mais j'ai cette angoisse de l'entrepreneur de ne pas trouver mes premiers clients. Je commence par déposer des tracts dans les boîtes aux lettres, manuellement, une par une, dans les villages autour du mien. Cela demande beaucoup d'énergie physique, mais elle a le mérite d'être gratuite. Parfois, mes parents m'aident à cette tâche interminable. Tout en déposant les prospectus, je laisse quelques piles dans les boulangeries, les coiffeurs, les pharmacies et plus généralement tous les commerces de proximité qui ont la gentillesse de m'accueillir. Je contacte également la presse et la radio locale. Cette dernière m'offrira une interview de quelques minutes dans la matinale. Je reçois mes premiers appels et réalise mes premières prestations. Néanmoins, l'agenda peine à se remplir. Je tente alors autre chose. Je vais imprimer par milliers un prospectus monochrome sur papier recyclé mauve. Pas très joli, mais visible et surtout à un coût dérisoire. Je vais de centre commercial en centre commercial pour essayer de les déposer au bout des caisses, là où les clients mettent leurs articles dans leurs sacs. Cette démarche n'a pas eu l'air d'être beaucoup faite et la plupart des centres commerciaux acceptent. Je dépose en une semaine 10 000 prospectus de cette manière, ma meilleure idée. La semaine suivante, le téléphone sonne régulièrement. J'établis des devis, je réalise des rendez-vous chez les particuliers, j'organise l'agenda des prestations et j'imagine même des projets avec des associations. Je suis ravi, mon entreprise est lancée et je devrais pouvoir en vivre. Un an passe. Nous sommes en février 2007. L'année s'est bien déroulée. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je n'ai pas gagné de grosses sommes d'argent, mais j'ai pu en vivre. C'est la troisième fois que je travaille à mon compte et je trouve que j'ai progressé dans l'organisation, que je suis plus libre et surtout que je fais pour la première fois quelque chose qui m'épanouit complètement, même si j'ai toujours aimé mes différentes activités. Mais en ce jour de février, je reçois l'appel des charges des différents organismes, c'est-à-dire un agenda de 2007 des sommes forfaitaires qu'ils vont me prélever. La première année, je bénéficiais d'une mesure qui réduisait ces charges et cette année, je serai à 100%. Un calcul s'impose donc. Il s'avère que je vais devoir donner en charge forfaitaire l'équivalent de 90% du chiffre d'affaires que j'ai réalisé ma première année. Seul moyen de m'en sortir tout en continuant d'avoir un salaire, multiplier mon chiffre d'affaires par deux. Soit en doublant le prix de mes prestations, soit en doublant le nombre de prestations que je réalise par semaine. Malheureusement, objectivement, aucune de ces deux solutions n'est viable. Après une journée de réflexion, je décide donc de fermer ma société et enclenche les démarches qui me feront radier officiellement le 21 mars 2007. Annie Birthday aura donc existé tout juste un an. Il a fallu l'expliquer à mon entourage, à ma famille, à mes amis, et à chaque fois je voyais un mélange de déception et de compassion. La réalité, c'est que je n'avais pas encore attribué de valeur, positive ou négative, à cette expérience. Mais le regard des autres m'influençait à traiter cette fermeture au bout d'un an comme un échec. J'ai commencé à y croire, à avoir un peu honte, à me sentir triste de cette fermeture. Pourquoi ? Je n'éprouvais pas ces émotions-là quand j'ai décidé rationnellement de fermer l'entreprise. Ce sont les mots, les regards, les sous-entendus de mon entourage et de la société qui ont orienté mon point de vue. Il est globalement perçu comme un échec en France de fermer sa société, alors qu'aux États-Unis, on considère qu'un entrepreneur ne connaît son métier que lorsqu'il a fermé 3 sociétés au moins. C'est ce qui explique le comportement des personnes qui continuent à maintenir leurs entreprises de manière irraisonnée, jusqu'à s'endetter et à être dans des situations délicates. La peur du jugement et de l'échec est, par essence, irrationnelle. Zoom. Jetons un regard factuel sur ma fermeture. C'est précisément ce que j'ai fait quand j'ai commencé à me sentir mal d'avoir cessé Annie Birthday. J'avais créé seule cette société. J'avais fait une étude de marché, un business plan, un plan de communication, tout cela pour la première fois. J'avais appris à établir une grille de tarifs pour un service, à créer les éléments de communication textuelle et graphique. J'avais pu vivre avec un salaire issu de cette activité pendant 13 mois. Je n'avais aucune dette vis-à-vis de la banque et je n'avais jamais été à découvert. Je n'avais aucune dette vis-à-vis de l'État et aucun retard de paiement. 100% de ma clientèle avait été satisfaite des prestations fournies. Je fermais la société avec un solde créditeur de 7 000 euros qui me revenait et qui pourrait me servir de pécule pour un nouveau projet. Mon bilan était donc largement positif. Continuer l'activité m'aurait mené à ma perte avec un bilan négatif à la clé. La réussite était de constater qu'un manque de moyens, de compétences ou de marché allait conduire mon entreprise à la faillite à moyen terme. Le service n'était pas assez diversifié et le nombre de prestations que je pouvais fournir par mercredi ou samedi, les jours où l'on faisait le plus appel à moi, était limité. La meilleure décision, celle du succès, consistait à porter ce regard objectif et à m'arrêter à temps. C'est ce que j'ai commencé à expliquer à mon entourage, à ma famille, à mes proches. Peu l'ont vraiment compris, mais comme j'avais l'air convaincu, personne n'a osé remettre mon raisonnement en cause. Vous êtes curieux de la suite ? Je suis devenu intermittent du spectacle indépendant en 2007 et 2008. Le 31 décembre 2008, pendant que vous fêtiez le réveillon, j'ouvrais une nouvelle entité inscrite le 1er janvier 2009 que je fermerai le 1er décembre 2010. De 2011 à 2013, je suis redevenu intermittent du spectacle. Mi-2013, j'ai ouvert une compagnie de spectacle que j'ai fermée en 2015. Et enfin, en novembre 2015, j'ai eu la sensation que je pouvais créer l'entreprise qui m'accompagnerait pour longtemps, Sherlock's Mind, qui se porte très bien. Aucune de ces étapes n'a été un échec, que des décisions réfléchies. Si Sherlock's Mind se porte bien aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu toutes ces expériences. Aucune d'entre elles n'a créé de dettes ou de drames. Cette expérience s'est renouvelée en 2016 sous une autre forme. La finalité y est tout aussi étonnante. L'été 2015, je décide de réunir plusieurs connaissances afin de lancer un magazine gratuit à Paris. Après quelques réunions, nous décidons de l'appeler Humour Magazine. Durant 7 mois, nous travaillons sur le concept, le contenu, le format, la mise en page, la distribution et la périodicité. Je suis chargé de la mise en place, j'appelle cela la mise en réalité. Car il faut bien avouer qu'il n'est pas difficile d'avoir de bonnes idées. Le véritable défi vient toujours de les concrétiser. Dans votre quotidien, je suis persuadé que vous croisez souvent des personnes vous exposant un super concept, une super idée, d'ordre personnel ou professionnel. Mais combien voient réellement le jour ? Je m'attelle donc à comprendre l'univers de l'édition de magazine, sa logistique, son planning, les obligations légales et le processus de distribution. En effet, notre volonté est de le rendre gratuit. Pour cela, il y a 2 solutions. Déposer des présentoirs à des endroits stratégiques ou les distribuer un par un aux personnes dans des endroits associés à l'humour. Car comme son nom l'indique, Humour Magazine a pour volonté de traiter l'humour sous toutes ses formes. À l'intérieur de chaque numéro, on y trouve des interviews d'artistes, de metteurs en scène, des recommandations de spectacles, de films, de livres, un plan des théâtres d'humour parisiens, du savoir insolite et amusant, etc. Pour la première possibilité, les présentoirs, il faut aller démarcher les lieux d'accueil un par un. Principalement les théâtres d'humour où circulent plusieurs centaines de personnes chaque jour. La prise de rendez-vous, le déplacement, le temps de conversation autour du projet me prend en moyenne 4 à 5 heures par lieu. À cela, il faut rajouter la création du présentoir, sa conception, sa livraison et un passage régulier, 3 fois par mois pour déposer des exemplaires du magazine. Je stoppe rapidement cette branche trop chronophage et je me concentre sur sa distribution de main à la main qui me semble plus importante. Je commence par recruter des personnes pour distribuer le magazine. Je crée un planning incluant des lieux et des horaires stratégiques basés sur la sortie des spectacles. Je crée le pitch à réciter au moment de la distribution pour que les personnes comprennent que le magazine est gratuit. Et je gère le graphisme des badges et des casquettes pour que les personnes qui distribuent soient rapidement identifiées. Enfin, je reçois la livraison du premier numéro à mon domicile qui me sert alors de bureau. Le concierge vient me chercher en m'annonçant que 4 palettes de carton m'attendent dehors. 4 palettes ! Je n'avais pas pris en compte le poids du papier. Un livre ou un magazine possède un volume sans espace vide. Du poids à l'état brut. Il y avait un peu plus de 2,5 tonnes de magazines à rentrer, tout un après-midi de manutention. Et surtout, une solution à trouver pour alimenter les personnes qui allaient le distribuer. Je me suis donc improvisé dispatcher et je passais une partie de mes journées au volant d'une Autolib, chargée de magazines jusqu'au toit, pour aller de lieu en lieu distribuer le stock aux distributeurs devant les théâtres. L'économie d'un magazine gratuit fonctionne sur la base de la publicité vendue. Les espaces publicitaires d'un magazine se proposent aux potentiels clients une fois que nous pouvons prouver qu'un certain volume est effectivement distribué chaque mois. 2 commerciaux s'occupent de ce secteur et commencent à démarcher des marques. Nous signons nos premiers contrats. Au bout de 3 mois de magazine, cela fait 10 mois que nous sommes sur ce projet. Ce qui devait être un projet secondaire, à côté de mon spectacle et de ma chaîne YouTube naissante, où je relevais le défi de produire une vidéo par jour pendant 1 an, commençait à devenir un projet de vie pour moi et mes collaborateurs. Nous passions la majorité de notre temps sur l'écriture, les interviews, la mise en page, la logistique, le commercial, la distribution et surtout la manutention de ces cartons de magazines au poids démesuré. À côté de ça, la rentabilité se maintenait au point mort. Il n'y avait pas de perte financière, mais aucun moyen de nous rétribuer, mes associés ou moi. Seules les personnes travaillant pour nous, commerciaux, graphistes et distributeurs, étaient évidemment payées. Et pour parfaire le tableau, nous peinions à convaincre des annonceurs qui ne croyaient pas au projet, alors que le magazine s'écoulait à 20 000 exemplaires mensuels, une quantité équivalente à la distribution de Pour la Science, Picotti ou de Cerveau et Psycho en vente dans les kiosques. Nous ne pouvions pas continuer comme cela, et je décide de mettre le magazine en veille au 3e numéro pour une reprise en septembre. Nous organisons une communication autour de cette pause estivale qui pourra me laisser le temps de réfléchir à changer les process et à faire rentrer un nouveau partenaire pour nous aider. Je ne perçois pas encore la notion d'échec à ce moment-là. Je sais que je me suis attaqué à un domaine que je ne connais pas et où j'ai tout à découvrir et à comprendre. Il est sage quand la machine s'emballe de faire une pause, de prendre du recul et de trouver des solutions. Si nous continuons comme cela, je perdrai la santé et mon capital financier avant la fin de l'année. Durant le mois d'août, j'analyse de fond en comble les solutions possibles. Et à moins de spontanément trouver des marques travaillant avec nous à l'année, ce qui me permettrait d'engager d'autres personnes pour déléguer ma charge de travail, le projet ne me semble pas viable. À côté de ça, mes autres activités fonctionnent bien. Le spectacle tourne dans des salles toujours plus grandes et la chaîne YouTube rencontre un public de plus de 40 000 personnes, moi qui en espérais 12 000 en 1 an. Je prends donc la décision de stopper définitivement cette aventure. Je réunis les personnes qui l'ont lancée avec moi et je leur fais part de ma décision. J'ai réussi à trouver quelqu'un pour racheter la marque à un prix dérisoire, mais qui couvrira les derniers frais. Ma décision est prise, il faut stopper. J'argumente ma décision et tout le monde la valide, sauf l'un d'entre eux qui fait part d'une angoisse. Que vont penser les autres ? Les marques que nous avons démarchées, les théâtres avec qui nous avons travaillé. Que penseront toutes les personnes qui ont connu Humour Magazine pendant ces quelques mois ? Et c'est comme cela, avec ces quelques phrases anodines, que le mot fut lâché. Nous avions vécu un échec. Nous avions raté. Le raisonnement est pernicieux. En anticipant le potentiel regard des autres et en appliquant les conséquences fantasmées, nous aboutissions à un raisonnement logique attribuant à notre magazine l'étiquette de l'échec. Zoom. Mais a bien raisonné. Avions-nous créé le magazine ? Oui. Avions-nous lancé la diffusion de 20 000 exemplaires mensuels et ce, dès le premier mois ? Oui. Avons-nous eu de bons retours du lectorat ? Oui. Avons-nous eu quelques annonceurs ? Oui. L'arrêt était motivé par un sens rationnel et un regard objectif sur le temps et l'énergie que prendrait le développement. Je me suis donc mis à faire une supposition simple. Qui, d'ici un an, se souviendrait d'Humour Magazine ? La réponse est personne ou presque. Voici une clé. Anticiper le regard des autres, c'est laisser à votre ego le pouvoir de décider à votre place. Zoom. Notre ego agissait comme si notre magazine était important, comme s'il avait marqué les esprits au point que tout le monde ne se souvienne que de ça. Certes, nous étions fiers de ce que nous avions accompli, mais à la rentrée, une fois l'été passé, la terre entière tournerait selon ses propres projets individuels. Personnellement, je ne me souviens presque plus des sociétés que j'ai croisées et qui n'existent plus. Lorsque c'est néanmoins le cas, je ne porte pas de jugement sur cette entreprise ou ses créateurs. Le monde bouge, les choses naissent et disparaissent. Il y a quelques années, j'aurais juré que je ferais mes recherches toute ma vie sur Lycos en me connectant à AOL, que ma page MySpace et que mon Skyblog dureraient 20 ans et que MSN Messenger resterait leader de la messagerie en ligne. Avez-vous du jugement négatif pour les marques que je viens de citer ? Leur simple existence dans le passé est un succès, n'est-ce pas ? J'ai donc rassuré tout le monde sur le fait que personne n'y penserait ou ne le jugerait comme un échec. J'ai félicité notre réussite. Et comme je portais ce projet, je savais que quoi qu'il arrive, il n'y avait que moi qui resterais associé à la marque Humour Magazine dans quelques rares mémoires. La finalité ? C'est en 2020, 4 ans plus tard. J'ai relancé un nouveau magazine en début d'année, Curious. Un magazine qui apprend des choses avec fun dans tous les domaines. Grâce à mon expérience avec Humour Magazine, j'ai pu penser ma base différemment. Ce mensuel n'existe que sur abonnement. Maîtrise donc des volumes d'impression et anticipation de la distribution. Il est payant pour un prix modeste de 3 euros par mois environ. Pas de dépendance à la publicité et aux marques. Il est envoyé partout dans le monde. Pas de limite géographique. Il n'existe pas en kiosque. Il passe donc de l'imprimeur directement chez le routeur, sans logistique de ma part. Le premier mois, 5000 personnes se sont abonnées. Et la simplicité à diriger cette aventure, le fait qu'elle soit viable sans aucun doute, n'existe que grâce à Humour Magazine. C'est d'ailleurs à la toute fin d'Humour Magazine qu'est née l'idée de travailler un nouveau projet avec mon associé actuel. Si j'étais resté sur la peur du regard des autres, j'aurais probablement continué Humour Magazine pour le fermer au bout d'un an, avec des pertes, mes autres projets à l'arrêt et sûrement écœuré à vie par l'édition d'un potentiel mensuel. Voici une clé. La notion ou la sensation d'échec que peuvent ressentir les autres ne vous appartient pas. Ce jugement n'est pas rationnel car ils ne connaissent pas toutes les données permettant de juger votre action. Bien plus grave, dans la majorité des cas, ce sont vos propres angoisses et peurs inconscientes qui créent le fantasme et ce jugement de la part des autres. Vous n'avez personne à décevoir, même pas vous. Vous ferez toujours ce que vous deviez faire à ce moment-là, et ce temps appartient déjà au passé. Dans les semaines et les mois à venir, le souvenir de cette action disparaîtra, mais une chose restera. L'expérience que vous avez vécue et acquise. Votre plus grand succès.